écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Présenté par Walid Selman, bonsoir.
Bonsoir Leïla Djebbour, mesdames, messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition, élections législatives, une consultation populaire fixée pour le 2 juillet, le processus est déjà mis en branle. Lancement aujourd'hui de la révision exceptionnelle des listes électorales. C'est une première historique, l'Algérie qui s'apprête à accueillir le pape Léon XIV, un événement politique et diplomatique majeur, une visite du chef de l'État du Vatican qui s'inscrit dans un esprit de paix et de dialogue. La défense des principes de coexistence justement et du dialogue entre les civilisations, un fondement de la politique étrangère de l'Algérie, la non-ingérence, soutien aux résolutions de crise par le dialogue dans un cadre inclusif, ligne directrice algérienne. Et cette bonne nouvelle pour les retraités, leur pension de retraite avec les nouvelles revalorisations perçues durant la première semaine du mois de mai, un engagement du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Connexion Internet, c'est là l'autre bonne nouvelle. Aujourd'hui, le lancement de l'augmentation du débit Internet à partir de demain lundi sur l'ensemble des territoires nationaux. Aucun frais supplémentaire pour les abonnés. Après le quiétus de l'Assemblée populaire nationale, le Conseil de la Nation adopte le texte de loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Et puis, dernier développement au Moyen-Orient. Après s'être séparé sans aboutir à un accord, le temps est monté d'un cran une nouvelle fois entre Américains et Iraniens. Les gardiens de la révolution iranienne affirment avoir entièrement sous contrôle le trafic dans le détroit d'Hormuz, menaçant de piéger leurs ennemis dans un tourbillon mortel. Trump réaffirme être prêt à frapper les infrastructures énergétiques iraniennes et ordonne un blocus naval du détroit. Et puis, l'autre fait de l'actualité internationale, l'élection présidentielle cruciale au Bénin. Il s'agit de choisir un successeur au président sortant, Patrice Talon. Il y aura du sport, on reviendra sur la conférence de presse en perspective du Tour d'Algérie de cyclisme et du basketball avec les quarts de finale de la Super Division, messieurs. Mesdames, messieurs, bonsoir. Une édition que nous entamons avec l'élection législative prévue pour le 2 juillet prochain. Pour préparer ce rendez-vous, la machine électorale est déjà mise en branle avec le lancement aujourd'hui de la révision exceptionnelle des listes électorales. Opération qui s'étalera jusqu'au 26 de ce mois. Un processus qui cible notamment les citoyens non inscrits ayant atteint l'âge de 18 ans et ceux déjà inscrits ayant changé leur lieu de résidence. Les Algériens résidant à l'étranger peuvent demander leur inscription selon les mêmes procédures au niveau des représentations diplomatiques. Paris, notre correspondante permanente sur place, Camélia Fatiha.
Coup d'envoi d'une étape décisive du processus électoral, cette opération est ouverte pour que les ressortissants algériens établis à l'étranger, y compris ceux de l'Hexagone, vérifient leur inscription auprès des consulats et mettent à jour leur situation administrative, radiation en cas de départ et signalement de tout changement d'adresse. Cette révision des listes prépare le vote du 2 juillet pour l'Assemblée populaire nationale, où les Algériens du pays de la diaspora éliront leurs représentants. Le nombre de sièges réservés aux Algériens de l'étranger passant de 8 à 12 selon la nouvelle loi électorale adoptée à la fin mars. De la révision des listes jusqu'au jour du scrutin, une même exigence s'impose, garantir à chaque citoyen un vote clair, accessible et pleinement exercé au cœur de la vie démocratique. Paris, Camélia Fatiha, Alger chaîne 3.
Opération révision exceptionnelle des listes électorales. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI par intérim, Karim Khelfen, a supervisé ce matin, depuis la wilaya de Aïn Defla, le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Le déroulement de l'opération, longuement évoqué également par Karim Khelfen sur nos ondes à midi. Je vous propose de l'écouter. Il répondait aux questions de Nesrine Dahmoun.
C'est une occasion qui est donnée à tout citoyen en remplissant les conditions ayant atteint l'âge de 18 ans révolu au jour du scrutin, c'est-à-dire jusqu'au 2 juillet 2026. Ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir d'abord effectuer leur droit constitutionnel de vote, mais aussi parce que c'est l'acte fondateur, c'est l'acte de naissance pour la citoyenneté de toute personne, mais aussi pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire par le passé, pour une raison, parce qu'ils ne voulaient pas le faire, ils n'avaient pas le temps de le faire, ou par méconnaissance. Donc on peut avoir 40 ans et n'être jamais inscrit sur la liste électorale, et on peut le faire durant cette période exceptionnelle.
Karim Khelfen qui est revenu également sur les nouvelles prérogatives de l'autorité nationale indépendante des élections dans le cadre de la nouvelle loi électorale. Certaines procédures se feront exclusivement également via une plateforme numérique consacrée par l'ANI toujours aux candidats. Une nouvelle pour ces élections du 2 juillet prochain.
Certaines pratiques et procédures se feront sur le numérique. Vous pouvez vous inscrire, demander la radiation, corriger les données personnelles, voir si vous êtes inscrite ou pas, où est-ce que vous êtes inscrite. Tout cela peut se faire via le site service.ina-26-élections.dz, mais aussi en parlant du point focal à l'endroit des partis politiques et des indépendants. Ça nous permet de répondre en temps réel aux doléances des partis politiques. Ça nous permet aussi de nous consacrer sur l'essentiel, travailler dans le calme et la sérénité, et en ayant le texte devant nous pour nous assurer des réponses que l'on donne à nos partenaires, qui sont des partenaires essentiels, les partis politiques et les listes des indépendants.
Le président par intérim de l'année, l'Autorité nationale indépendante des élections, Karim Khelfen, répondait aux questions de Nesrine Dahmoun. L'ANI qui met en garde, elle appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence sur les réseaux sociaux. Elles sont diffusées en effet de fausses annonces appelant à l'inscription des encadreurs des élections via un lien électronique frauduleux, des annonces mensongères relayées dans le but de faire pression, de tromper l'opinion publique et de perturber le bon déroulement de l'opération électorale. Il est 19h06 sur les ondes d'Alger Chain 3. Nous vous lisons en titre, le pape Léon XIV, hôte de l'Algérie. C'est une visite historique que le chef de l'État du Vatican s'apprête à effectuer dans notre pays. L'Algérie, qui a fait de la défense, de la coexistence et du dialogue entre les civilisations un fondement de sa politique étrangère, une option qui trouve tout son sens et toute sa portée, dont l'initiative d'ailleurs, à titre d'exemple, du vivre ensemble, soumise à la communauté internationale et adoptée par l'ONU, proclamée la journée internationale du vivre ensemble, est observée le 16 mai de chaque année. Sur l'importance et la portée de cette visite du pape Léon XIV, on écoute Hamid Hached, directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses.
L'Algérie a été toujours une terre d'hospitalité et de liberté. Beaucoup de choses qui nous unissent, les liens de la fraternité humaine et de l'avenir qui nous lie. Nous avons bien sûr beaucoup de choses à faire ensemble parce que l'Algérie occupe une importance et un rôle incontournable dans la résolution de certains problèmes dans différentes régions du monde. Et je crois que ça sera possible avec les efforts de l'Algérie et du Vatican à travers la personnalité du pape qui a des origines algériennes et qui s'inspire d'une grande personnalité algérienne qui est Saint-Augustin. Nous souhaitons bien sûr pouvoir apporter des solutions à la cause juste du peuple palestinien et de toutes les causes qui défendent leur libération.
L'Algérie terre d'accueil et de tolérance qui accueille le pape Léon XIV, qui concrétise à travers cette visite le souhait de son prédécesseur, nous dit Shamseddine Hafiz, le directeur de la Grande Mosquée de Paris. Il était l'invité du jour.
C'est un message à la fois symbolique, spirituel, et c'est un message très politique également, même si on dit que les hommes de foi ne font pas de politique. Le Saint-Père est à la fois le chef de l'Église, mais en même temps le chef d'un État, le Vatican. L'aspect spirituel, le pape Léon XIV vient avec d'abord son mot le plus important, c'est « Salam alaikum ». Je crois qu'il fait vraiment honneur à son prédécesseur, le pape François. Même lui, puisqu'il est dans la tradition chrétienne le porte-parole et le chef de file de ce qu'on appelle les Augustiniens, en référence à notre illustre Algérien Saint-Augustin. Et je crois que ce message rappelle qu'à la fois être chrétien et être musulman, c'est d'abord avoir la foi en Dieu. Mais le deuxième point également, c'est que à la fois la chrétienté et l'islam se basent sur la question de la dignité. La dignité humaine, elle est fondamentale dans les deux religions. Et le troisième point qui est important, c'est la compassion et la solidarité.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, a été reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Visite du pape Léon XIV en Algérie est porteuse de profondes significations et constitue un événement politique et diplomatique majeur. Le propos est celui du secrétaire général de la Ligue des Oulamas, prêcheur et imam du Sahel, Missi Bezaz Liastrini.
Dans une déclaration à l'APS, Lakhmissi Bzaz souligne que le choix d'Alger comme première étape n'est pas anodin. Le pays est, selon lui, le cœur battant de l'Afrique en raison de son poids historique et de sa dimension symbolique, faisant de lui un véritable pont entre les continents. Une centralité qui s'explique, ajoute-t-il, par des valeurs civilisationnelles et humaines profondes qui confèrent à l'Algérie un rayonnement intellectuel bien au-delà de son espace géographique. À titre d'exemple, il évoque l'héritage de Saint-Augustin, figure majeure dont l'influence continue de marquer de nombreuses sociétés société à travers le monde. Autre référence, celle de l'émir Abdelkader, symbole de résistance au colonialisme mais aussi de tolérance. Son action humanitaire en Syrie où il protégea des chrétiens lors de violences confessionnelles illustre selon lui les valeurs universelles portées par l'Algérie. Pour l'armée Sibzaz, cette visite véhicule ainsi des messages forts de paix, de dialogue et de coexistence interreligieuse. Il insiste enfin sur le modèle religieux algérien fondé sur la modération, la tolérance et le respect des convictions qu'il présente comme une contribution essentielle à l'élévation des sociétés humaines.
Nous vous lisons en titre cette bonne nouvelle pour les retraités, leur pension de retraite avec les nouvelles revalorisations décidées, perçues durant la première semaine du mois de mai, un engagement du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Autre bonne nouvelle, il s'agit de connexion Internet avec le lancement de l'augmentation du débit Internet à partir de demain lundi sur l'ensemble du territoire national. Aucun frais supplémentaire pour les abonnés, affirme le ministre de la Poste et des Télécommunications. Il était en visite de travail aujourd'hui dans la wilaya de Saïda. Après le quitus de l'Assemblée populaire nationale, présentation, le texte élaboré par la commission parlementaire paritaire portant sur les dispositions objet de désaccord entre les deux chambres du Parlement concernant le texte de loi sur la criminalisation du colonialisme français en Algérie a été adopté cet après-midi par la chambre basse du Parlement. Lina Haddouche.
L'adoption de cette loi s'inscrit dans une logique de fidélité à la mémoire des shuhada et des mujahidines et servira également de référence aux nations colonisées, affirme le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri.
Ce texte de loi s'inscrit dans le devoir de fidélité envers la patrie, sa défense et la protection de ses intérêts. Il ne s'agit pas d'un simple exercice politique, mais d'une nécessité nationale, continentale et même universelle. Ce texte est d'ailleurs appelé à devenir une référence pour les nations colonisées et les peuples opprimés.
Un texte porté par le devoir de fidélité envers la patrie et sa mémoire et qui vise à consacrer la vérité historique, estime le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tchrift.
L'adoption de cette loi est un hommage à la mémoire nationale. Elle traduit également un message clair, celui d'une Algérie victorieuse qui bâtit son avenir sans jamais renoncer à sa mémoire, à son histoire, ni au sacrifice de ses shuhada.
Cette loi consacre ainsi le devoir de mémoire nationale face aux tentatives de falsification, tout en défendant les principes de justice, de dignité et de vérité historique.
Depuis le Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, c'était Lina Haddouche. Le glorieux parcours du défunt Moudjahed et ancien président Yemin Zerouel a fait la trame de l'édito de la revue Al Jaysh du mois d'avril, un parcours qui est source d'inspiration pour consolider les rangs en ces temps complexes. Rimbo Kadoum.
Dans son édito, la revue Al Jaysh rend hommage à l'ancien président et Moudjahed Yemin Zerouel, saluant le parcours d'un homme intègre et profondément patriote dont la vie a été entièrement consacrée au service de l'État et de la nation. Dans un contexte marqué par les incertitudes, l'édito souligne la nécessité de renforcer l'unité nationale et de consolider un front interne solide en mobilisant l'ensemble des acteurs nationaux autour des intérêts supérieurs du pays avec un rôle central assuré par l'AMP dans la préservation de la sécurité et de la souveraineté. Et enfin, l'édito affirme que l'Algérie, fidèle à ses valeurs et à l'héritage de ses martyrs, continuera de former des générations d'hommes engagés et déterminés, capables de poursuivre l'œuvre de l'édification nationale et de porter le pays vers davantage de progrès et de stabilité.
L'événement économique aujourd'hui, le Jazz Agro, qui ouvre ses portes ce dimanche au Palais des Expositions. La 23e édition du Salon Professionnel International de la Production Agroalimentaire est marquée notamment par une forte participation, près de 700 entreprises. Sarah Hafarsas.
La production nationale s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de développement soutenue, portée par plusieurs leviers essentiels. La valorisation de cette production repose notamment sur l'appui des autorités publiques et sur l'exigence croissante de qualité, devenue un facteur déterminant de compétitivité et de reconnaissance des produits locaux. Benaïda Jalel, responsable de marketing à l'entreprise El Wujden.
Les autorités nous ont beaucoup aidés à développer la production en Algérie à travers les restrictions justement notamment de l'importation, donc ce qui nous a permis de développer nos activités, de diversifier nos produits et aussi de viser un certain niveau de qualité par rapport aux matières qu'on utilise. La production de produits, on sollicite des fournisseurs qui travaillent sur un certain niveau de qualité par rapport à nos produits, donc ce qui est matière première.
Pour une production de qualité qui répond aux exigences du marché, il est essentiel de s'appuyer sur des matières premières de qualité, un bon emballage ainsi que des techniques et des équipements modernes. Seydi Nadia, responsable approvisionnement de l'entreprise AgriFood.
On choisit les meilleurs éléments pour la matière première par rapport à notre emballage. On achète l'emballage de meilleurs fournisseurs de l'Algérie. On a les meilleures techniques et les meilleures machines pour faire un bon produit.
La production agroalimentaire constitue un levier essentiel de l'économie nationale. Elle repose sur l'encouragement des initiatives locales, la qualité, l'investissement et le respect des normes du marché. Afin de renforcer la compétitivité et d'ouvrir davantage de perspectives à l'échelle régionale et internationale.
Économie toujours, la stratégie de l'Algérie en termes d'énergie et d'énergie renouvelable déroulée lors d'une rencontre présidée par le premier responsable du secteur, Younes Djouti.
La réunion a permis de fixer les priorités pour 2026 avec un focus sur le solaire et les énergies propres. Un programme photovoltaïque de 3200 MW est en cours, dont près de 40% déjà réalisés, avec plus de 1000 MW supplémentaires attendus dès cette année. Le ministre a également insisté sur le développement de l'hydrogène vert et la réduction de l'empreinte carbone.
Notre vision doit être adaptée à la vision internationale. L'Union 3000 MW. إضافة ل 600 ميجاوات اللي هي حيز الخدمة 4000 ميجاوات من 27 يعني راح يكون عندنا ميكس انرجيتيك دابابري 13% à 15% الولوج الأسواق الإفريقية يتطلب منها طاقة خضراء إلى نهاية سنة 2026 راح تكون عندنا كمية تسمح لنا للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
Objectif, bâtir un modèle énergétique durable et moins dépendant des énergies fossiles.
Il est 19h16 sur les ondes d'Algéchien 3, la guerre au Moyen-Orient, au lendemain de l'échec des négociations entre Washington et Téhéran. Le président américain Donald Trump annonce ce dimanche un blocus naval américain du détroit d'Hormuz. Les gardiens de la révolution iranienne qui contrôlent ce passage stratégique réagissent en menaçant de piéger dans ce passage stratégique leurs ennemis dans un tourbillon mortel. Les derniers développements avec vous, Karim Hasnavi, bonsoir.
Bonsoir. Les États-Unis vont entamer un processus de blocus de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Hormuz. C'est ce qu'a écrit sur ses réseaux sociaux le président américain Donald Trump dans une première réaction à l'échec des négociations avec Téhéran. Pour l'heure, l'administration américaine n'a fourni aucune information concernant les modalités d'un tel blocus. Réaction des Iraniens par la voix des gardiens de la révolution qui affirment dans un communiqué que les navires militaires s'approchant du détroit d'Hormuz seront considérés comme violant le cessez-le-feu en cours et seront traités avec fermeté. Ils affirment aussi que le détroit d'Hormuz est sous le contrôle et la gestion intelligente de la marine des gardiens de la Révolution, indique la même source. Le risque de voir partir en éclat le cessez-le-feu fragile de 2 semaines est très élevé et les raisons de l'échec des négociations de paix à Islamabad sont dues à des exigences américaines rejetées et à des positions iraniennes intransigeantes. Rappelons que les États-Unis réclament un engagement ferme de l'Iran pour limiter son programme nucléaire et une réouverture immédiate et garantie sans menace du détroit d'Hormuz. Des demandes qualifiées par l'Iran de déraisonnables et de conditions dictées de capitulation. Téhéran qui exige de son côté une levée des sanctions et une reconnaissance de sa souveraineté.
La flottille globale Somos de Pour Reza a quitté cet après-midi le port de Barcelone avec un léger retard à cause du mauvais temps. Une centaine d'embarcations vers la bande pour briser un blocus qui perdure depuis 19 ans. Plus de 3000 participants issus de 100 pays pour attirer l'attention du monde entier sur le vécu des Razaouis dans des conditions inhumaines. François Milan, analyste politique, un des participants à cette flottille, il répond à Linda Hamad.
Elle est qualifiée comme la plus grande initiative de l'histoire. Il y a quand même plus de 70 navires avec plusieurs milliers de participants qui viennent de 70 pays différents. Particularité aussi, c'est qu'il n'y aura pas ni de célébrités à bord, ni de politiques. C'est des humanitaires, c'est des médecins. Il y a aussi des gens de la protection civile, bien sûr non armés, auront comme mission, entre autres, de surveiller que le cessez-le-feu officielle actuellement à Gaza soit respectée, et sinon de documenter ces violations. Cette flottille est renforcée cette année par le navire Arctic Sunrise de Greenpeace, ainsi que Open Arm, navire de sauvetage qui opère depuis des années en Méditerranée et qui appartient à l'ONG espagnole Proactiva Open Arm. Tous, on pense qu'il faut vraiment que les chancelleries occidentales soutiennent cet événement. La société civile fait ce que ne font pas les chancelleries occidentales.
L'actualité internationale, c'est également le Bénin qui vit ce dimanche une journée électorale cruciale avec l'élection présidentielle destinée à désigner le successeur du président sortant, Patrice Talon, qui ne se représente pas. Après deux mandats, ce scrutin oppose d'un camp la mouvance présidentielle et celui de l'opposition. Et puis l'Ukraine et la Russie se sont accusés mutuellement ce dimanche d'avoir violé à des centaines de reprises le cessez-le-feu instauré la veille sur le front en Ukraine à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Nous arrivons à notre page sport avec nous, Hamza Rahmouni. Hamza, bonsoir.
Bonsoir, Laïd.
Une page sport que nous entamons avec notamment les quarts de finale du basketball et de la Super Division, messieurs.
Tout à fait, les quarts de finale du tournoi play-off du championnat Super Division, messieurs, de basketball. Deux matchs d'appui se déroulent en ce moment même dans un classique du basketball algérien opposant le Wydad de Boufarik au Mouloudia d'Alger. À 6 minutes de la fin du troisième carton, le Wydad de Boufarik mène par 12 points d'avance face au Mouloudia d'Alger, 62 à 50 points, alors que pour l'autre quart de finale, eh bien, on joue carrément les dernières secondes de ce match entre le MBS Tawali et le CR Ben Issaf, le MBS Tawali qui mène au score 59 à 55.
Et puis, l'actualité sportive, c'est également la petite reine qui s'apprête à sillonner les routes de l'ouest du pays à l'occasion de la 26e édition du Tour d'Algérie. C'est qui prévu du 17 au 28 avril. Rostom Yahya Chérif.
Pendant 10 jours de compétition, le peloton parcourra près de 1400 km à travers plusieurs wilayas avec un tracé aussi exigeant que spectaculaire. Reliant Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Hammam Rera, Blida, Alger et Tizi Ouzou. Au total, 126 coureurs répartis en 21 équipes seront au départ. Parmi elles, 9 formations algériennes dont Madal Pro Cycling Team et le Mouloudia d'Alger bien décidé à briller à domicile. La concurrence sera relevée avec la présence de sélections nationales comme la Tunisie ou le Rwanda ainsi que Oman, sans oublier plusieurs équipes continentales venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Une participation dense et relevée saluée par le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Khirdin Balbali. Selon lui, la direction technique nationale en coordination avec la commission d'organisation du Tour d'Algérie a veillé à sélectionner des équipes de qualité pour garantir un niveau compétitif élevé et un spectacle à la hauteur des attentes.
La Fédération algérienne de cyclisme a reçu plusieurs demandes d'invitation. La direction technique nationale a choisi les meilleures équipes pour valoriser l'événement. Et en même temps, pour les équipes algériennes, c'est une occasion, soit pour l'équipe Madar ou l'équipe MCA, pour les équipes locales, pour côtoyer le haut niveau et pourquoi pas se progresser, alimenter l'équipe nationale avec les meilleurs éléments.
Sur le plan sportif, cette édition s'annonce particulièrement disputée. L'étape la plus longue reliera Mostaganem à Ténès sur une distance de 155 km, un véritable test d'endurance pour le peloton. Mais ce sont surtout les étapes de montagne qui devraient faire la différence. Deux arrivées au sommet sont au programme avec l'étape reine entre Hammam Rera et Blida, une étape décisive avec une arrivée au sommet du Manchera classé hors catégorie. C'est là, sur ces pentes exigeantes, que le Tour d'Algérie pourrait bien livrer sans verdict final lors de cette 9e étape, l'avant-dernière de cette 26e édition du Tour d'Algérie.
Il est 19h23 minutes sur les ondes d'Algérie 3. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.